Comme j'ai mentionné, l'étude que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est une suite à les études que j'ai déjà commencées, qui s'est tirée du livre ici de tout mon cœur. Et aujourd'hui, cette étude-là de tout mon cœur, elle consiste à examiner notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Et dans les études précédentes, on en était convenu que lorsque le mot « cœur » est utilisé dans la Bible, il est question de la partie immatérielle de l'homme. C'est le fort intérieur, là où se trouvent les pensées, où résident les émotions et où se prennent les décisions. Et ce mot-là se trouve 844 fois dans la Bible. Et jamais, lorsqu'il est utilisé, il est question de l'organe qu'on a au cœur de notre poitrine. Donc, on peut apporter cette affirmation, c'est que nous pouvons cacher cet aspect aux humains, mais on n'est pas capable de le cacher à Dieu. Donc, l'étude de tout mon cœur, c'est en sorte une sorte d'électrocardiographie. Vous voyez, vous avez les images ici, spirituelles, et les faits, il est important de le faire, parce que l'état ou la condition où se trouve notre cœur va déterminer notre marche avec Dieu. Et si vous allez chez le médecin faire examiner votre cœur, puis il vous donne certaines recommandations, il vous dit « OK, il faut que tu te mettes à diète, il faut que tu perdes un peu de poids, il faut que tu commences à manger mieux, tu commences à faire de l'exercice », est-ce que vous seriez prête à le faire? Par contre, si vous faites un examen de votre cœur à la lumière de la parole de Dieu et que puis vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans votre vie, est-ce que vous seriez prête à faire les démarches pour avoir une meilleure marche avec Dieu? Donc, c'est le but de cette série d'études. Et dans une étude précédente, on avait regardé le cœur de l'homme à son état brut. Et nous avons vu que selon Jérémie 17:9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Et on avait parlé de ça façon assez longuement. Dans l'autre étude, l'étude suivante qu'on avait vue, c'était intitulée « Où est mon cœur? » Et Proverbe 4:23 nous disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Matthieu 6:21 nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, aujourd'hui, le titre de notre message est « Mon cœur, un foyer confortable pour Christ ». Et on va regarder les changements que Dieu a déjà opérés dans nos cœurs depuis notre conversion. Et peut-être plus tard, OK, on va plutôt regarder comment notre cœur peut devenir un foyer de plus en plus confortable. Ça, ce serait dans une autre étude, puis Dieu voulant, peut-être qu'un jour, je vais vous l'apporter. Donc, aujourd'hui, on va regarder la première partie, soit les changements qui s'opèrent dans le cœur du croyant. Alors, on va prier. Père Céleste, ce matin, ce thème, Seigneur, c'est quelque chose qui est important pour toi, qui est primordial, Seigneur, c'est le cœur de l'homme, Seigneur. Le cœur, Seigneur, qui est là où se résident les pensées, là où se prennent les décisions. Et notre cœur, notre âme, Seigneur, qui notre partie immatérielle, Seigneur, qui ne se retrouve pas dans aucune autre créature vivante, Seigneur, tu nous as créés ainsi. Parce que tu voulais, Seigneur, que nous soyons... parce que tu voulais que ta créature puisse t'honorer, te glorifier, t'élever. Et c'est notre but ici en tant que croyant, Seigneur, de t'annoncer aux autres, Seigneur, et de chanter tes louanges, de te glorifier et d'être ceux que tu as choisi, Seigneur. Et, Père, on veut que tu puisses disposer nos cœurs ce matin pour entendre cette parole et que tu puisses être glorifié dans tout ce qui sera dit et fait ce matin. Amen. Lorsqu'on vient à Christ pour recevoir le salut par la foi, il y a un changement qui se produit dans notre être intérieur. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par cette affirmation-là, ça implique que notre vie est... Il y a maintenant, dans notre vie, c'est marqué par un avant et un après. Avant notre conversion et après notre conversion. Et il a été mentionné aussi dans l'introduction qu'on a déjà regardé la condition de l'homme à son état brut et que seulement Christ peut faire le changement. Et si nul était de la grâce de Dieu, il n'y aurait pas de changement qui serait fait, on demeurait comme ça. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble les caractéristiques d'un homme, du cœur de l'homme, après la conversion. Donc, on a pu constater les changements qui se sont produits dans nos vies personnelles ou dans les vies de personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Et combien souvent qu'on va entendre une personne qui a dit, « Ben, tu sais, la minute que j'ai accepté le Seigneur, ben, j'ai arrêté de sacrer. J'ai été capable d'arrêter de fumer. On aurait dit que lorsque je faisais quelque chose, ben, on dirait qu'il y avait quelque chose en dedans de moi, puis j'ai arrêté ces comportements-là. J'ai arrêté de m'impatienter à l'auto. » Non, ça lui est tough. Mais, vous voyez, c'est des choses que, pour la personne de tous les jours, c'est des actes banals. Et lorsque vous dites, ben, tu sais, ben, il n'y a rien là, tu sais, faire ces choses-là. Dans le cœur du chrétien, ces choses-là, ça commence à nous chicoter un petit peu. Et puis, habituellement, on n'est pas parfait, mais ça devient de moins évident après que le Seigneur est venu s'installer dans nos cœurs, dans le cœur du croyant. Est-ce que Christ peut réellement habiter dans notre cœur ou est-ce que c'est seulement un langage qu'on va dire des fois comme pour illustrer ou qu'on va dire un petit enfant, mais souvent, est-ce que tu as invité Jésus à venir dans ton cœur? OK? Bien, vous savez, c'est biblique. OK? Puis, on va regarder ici Éphésiens 3, les versets 16 et la première partie du verset 17. Et puis, voyez-vous ici les changements dans notre cœur reflètent. Les changements qui se trouvent dans notre vie personnelle est une réflexion de ce qui s'est produit dans notre cœur. Voyez-vous, Éphésiens 3, 16 et 17, et qui se lit comme suit, « Afin que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Donc, que Christ vienne habiter dans vos cœurs, c'est biblique, on le voit ici. Et lorsqu'on regarde au verset 16, on voit que Paul est en train de dire aux Corinthiens que Dieu veut voir dans le croyant un renouvellement permanent dans l'homme intérieur et que c'est possible seulement par la puissance du Saint-Esprit afin que Christ puisse y habiter par la foi. Dieu s'intéresse, okay, à notre être intime, à ce qui se passe dans notre cœur et pas seulement ce qu'il voit à l'extérieur. Lorsqu'on regarde le mot « habiter », dans la Bible, il est utilisé couramment, mais ça ne veut pas toujours dire, il n'est pas toujours utilisé du même sens. Et par contre, comme exemple, lorsqu'on voit dans Jean 1, 14, où on dit que la parole a été faite chair et qu'elle est, elle a habité parmi nous, on se réfère à ce moment-là à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsque Dieu venait habiter parmi son peuple dans la tente, dans le tabernacle. Et puis, le mot qui est utilisé ici veut littéralement dire, habiter veut littéralement dire dresser une tente. Et lorsqu'on entend ce mot-là, ça veut un peu dire que Jésus est venu dans la chair dresser sa tente parmi son peuple. Donc, c'est comme ça que Jésus est venu habiter parmi les hommes dans la chair. Et puis, par contre, le mot aujourd'hui qu'on retrouve dans Éphésiens 3, 16 et 17, c'est un mot grec qui est utilisé. Il veut plutôt dire qu'il habite dans le cœur du croyant. On dit qu'il habite dans le cœur du croyant par la foi. Donc, ici, le mot « habite » ne se réfère pas au moment de la conversion, lorsque Christ vient dans le vivre dans le croyant. Il implique plutôt que celui-ci, le croyant, désire que Christ il fasse sa demeure, étant enraciné dans sa vie est rendu possible par le renouvellement de l'esprit. Donc, le croyant doit donc laisser Christ devenir le maître de ses attitudes et de sa conduite, car Christ ne peut pas se sentir confortable si le croyant ne le fait pas. Donc, en autrement dit, c'est que si tu veux que Christ vienne habiter dans ton cœur, tu ne peux pas marcher tout croche. Et on voit des chrétiens, mais souvent, qui vont marcher tout croche. Puis il vient des moments donnés dans notre vie où on doit sortir nos vidanges. Parce que, et de tenir compte que la conduite, une bonne conduite du croyant est souvent une réflexion d'un changement qui s'est produit dans notre fort intérieur. Une fois, je parlais avec un homme de Dieu, puis je parlais d'une personne chrétienne qui avait décidé d'aller dans le monde, et puis ça m'attristait beaucoup. Et puis, cet homme de Dieu-là me dit, puis ça m'a rassuré, il me disait que cette personne-là ne sera jamais un bon païen. Puis, un chrétien authentique ne peut pas être confortable s'il entretient un péché, car Christ n'est pas à l'aise de demeurer dans son cœur. Stéphanie me faisait part l'autre jour d'un petit livre qu'elle avait donné à Lisette pour enseigner à l'école du dimanche. Et puis, c'était justement sur le thème de ça, de cœur qui venait habiter. Puis, un enfant, il comparait ça à la maison, puis il regardait, est-ce que ta maison est propre, tout ça. Puis là, oups, si tu trouves un garde-robe, là, oups, il est peut-être tout à l'envers. Bon, tu vas dans une place que le monde voit moins souvent, il y a peut-être quelque chose que tu ne voudrais pas que les autres voient. Donc, le cœur, c'est un peu comme ça, OK? Puis on doit sortir nos vidanges, puis on doit faire en sorte que Christ va être confortable lorsqu'il va venir habiter en nous. Donc, OK. Le meilleur commentaire que je peux voir concernant ça, c'est John MacArthur qui fait un commentaire sur ces deux versets-là. Et puis, il résume très bien ce qui veut être mentionné, c'est que dans le contexte de ce passage, la connotation n'est pas que Christ se trouve simplement à l'intérieur de la maison de notre cœur, mais qu'il y est chez lui, bien installé comme un membre de la famille. Christ ne peut être chez lui dans notre cœur tant que notre être intérieur ne se laisse pas fortifier par son esprit. Tant que le Christ ne contrôle pas notre vie, Jésus-Christ ne peut pas s'y trouver à l'aise. Il y a plusieurs demeures. Il n'y demeure pas comme un visiteur que l'on tolère. Okay? L'enseignement de Paul dans ce passage ne se rapporte pas au fait que Jésus est présent dans notre cœur, mais plutôt à la qualité de sa présence. Donc, je pense que ça résume beaucoup ce que ce verset-là veut dire. Et on peut le résumer que la vie chrétienne, c'est que Christ qui est en nous, comme chez lui. Est-ce que Christ peut se trouver de plus en plus à l'aise en nous? Et puis souvent, on présente la vie chrétienne bien souvent comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Puis cependant, le Nouveau Testament nous parle plutôt d'un changement de caractère qui se traduit par nos actes. Et il est triste souvent de voir un chrétien de longue date qui va faire des activités qui sont louables en lui-même, va pratiquer une religion, va faire des activités. Mais lorsqu'on regarde, certains c'est valable, mais Dieu ne t'aimera pas plus à cause des bonnes actes que tu fais. Lui, ce qu'il veut voir, c'est qu'il veut voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur. Et puis, il y a plusieurs personnes qui vont se dire chrétiens, qui ont accepté le Seigneur à une telle ou telle date. Par contre, il est possible que ce soit vrai, il y a seulement Dieu qui est capable d'en juger. Mais votre marche, si on veut le montrer aux gens qui nous entourent, il est bon de démontrer que notre marche, elle est en accord avec ce que Dieu enseigne. Donc, la meilleure façon d'observer s'il y a eu le comportement, l'attitude ou le train de vie en général est la meilleure façon d'observer s'il y a eu un changement dans le cœur d'une personne. Donc, avant, ce que j'étais avant que Christ vienne habiter dans mon cœur, et après, ce que je deviens par son esprit qui œuvre en moi. On peut facilement affirmer que les changements de notre cœur ont un caractère d'une marque d'un changement plus profond, je me répète. je crois que pour pouvoir affirmer cela, la meilleure façon la meilleure façon de le faire, ce serait de regarder ce qui s'est passé dans le cœur d'une personne. Et je crois que, puis je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, que si on regarde ce qui s'est passé dans le cœur de Paul, je pense qu'on n'a pas de meilleur exemple. Et puis, je vais commencer par vous montrer un petit peu l'arrière-plan de Paul. Ça, c'est tiré directement du livre que je vais prendre pour enseigner mes élèves. Paul naquit à Tarse et était, de ce fait, citoyen romain, juif de la tribu de Benjamin. Il devint un membre zélé du parti des pharisiens. Plus juif que ça, tu meurs. Il fut instruit par Gamaliel, un des rabbins les plus célèbres du premier siècle. Jeune homme, il approuva la lapidation d'Étienne et il reçut l'autorisation officielle de persécuter l'Église chrétienne naissante. Son éducation et les fonctions importantes auxquelles il accéda très jeune laissent penser qu'il était issu d'une famille aisée et respectée. L'accueil qu'il reçut, il y a une couple de passages qui corroborent, qui vont affirmer que Paul était sans doute dans une famille qui était influente, qui était à l'aise. Donc, lorsqu'on va commencer, puis là, le restant de l'étude, ça va être des versets qu'on va passer vite. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans vos Bibles. Tout va être là, puis je vais les lire vite, puis je vais commenter. La façon que je vais procéder, là, c'est un petit peu comme ça que j'enseigne mes jeunes. Okay? Lorsqu'on étudie un passage biblique. Donc, on va commencer avec Acte 7. Et puis, le verset 54 commence en disant, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. » OK? Là, il est question, ce qu'on est en train de dire ici, j'aurais dû commencer. Le chapitre 7 de Actes, c'est le discours d'Étienne, OK, sur la place publique à Jérusalem. Et puis, Étienne, ce qu'il venait de dire ici, c'est que il venait d'affirmer que c'était les Juifs, OK, qui avaient assassiné Jésus le Juste. Et vous pourrez lire pour vous-même le début de Actes 4. Acte 7. Verset 55. Ben, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Voyez-vous ici la prédication de l'Évangile, là? Les gens, ils n'aimaient pas ça l'entendre. Tu sais, puis on dit, ils poussaient des grands cris. Moi, je me souviens une fois, j'essayais de communiquer quelque chose à quelqu'un. Littéralement, la personne ne voulait pas l'entendre. Elle a fait ça de même. Bla, 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 bla. OK? Elle ne voulait vraiment pas l'entendre. Mais là, quand j'ai lu ça, qu'est-ce qui se passait? Donc là, j'ai pensé à ça. Ils ne voulaient vraiment pas l'entendre. Ils ont fait bien du bruit, puis ils étaient comme enragés d'avoir entendu. Mais vous pouvez vous attendre que lorsque vous allez parler de l'Évangile à quelqu'un, les gens vont se comporter un petit peu comme ça. Peut-être pas aussi grave que ça, mais ça peut arriver. Donc, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul, il va devenir Paul pour ceux qui ne savent pas. Et puis, ce verset-là peut indiquer que Paul était celui qui était chargé de l'exécution d'Étienne. Et il lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ça ressemble un peu à la mort de Jésus sur la croix. Hein? Il venait de voir la gloire de Dieu, puis il a demandé à la dernière minute, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça ressemble beaucoup à ce que Jésus a fait sur la croix. On va aller à Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Moi, je trouve ça exceptionnel, ça, que Vous voyez, les apôtres de Jésus, eux autres, ils avaient entouré Jésus, OK, tout le long de son ministère. Puis Jésus les avait avertis que si vous voulez me suivre, ça, il va y avoir un prix à payer. OK? Puis, regardez bien, là, contrairement à ce qu'on avait vu là, avant que l'Église soit fondée, les apôtres étaient tous des peureux. OK? Mais regardez bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils savaient ce que Jésus avait fait, et puis ils ont resté là. OK? Ils ont resté à Jérusalem, puis tous, sauf l'apôtre Jean, vont être martyrisés, vont mourir martyrs. Par contre, on regarde les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres disciples? C'est qu'ils se sont sauvés un petit peu partout. Okay? Ceux qui n'avaient pas côtoyé Jésus se sont sauvés un petit peu partout. Et je crois que ça, également, c'était voulu de Dieu parce que ces personnes-là, quand ils vont se sauver, qu'ils vont sentir un peu plus à l'abri, ils vont recommencer à parler de Jésus. Donc, il a peut-être fallu qu'il y ait une grosse persécution pour que l'Évangile avance dans le restant du monde. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et ils pleurèrent à grand bruit. Paul, de son côté, écoutez bien ça, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et les jetaient en prison. Est-ce que vous remarquez ici jusqu'où la haine de Saul, la haine qu'il y avait envers les chrétiens, c'est pas croyable. Donc, on va aller à la conversion de Saul, qui se trouve dans Acte 9, et tout le monde connaît ce passage-là. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Voyez-vous ici, lorsqu'on regarde comme faut ce verset-là, là, on dit que Saul, il ne pensait seulement qu'à menacer et à tuer. Et nous savons qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne et que ce meurtre n'était probablement pas le seul qui avait fait, okay, ou qui avait approuvé. Verset 2. Il lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voyez-vous, Damas, c'était une ville qui se trouvait en Syrie, et c'était probablement la plus grande ville hors de la Palestine, où il y avait une population juive. C'était la population juive la plus importante dans une ville qui n'était pas en Palestine. Et puis, vous voyez, tantôt, je vous ai mentionné qu'il y avait des chrétiens qui s'étaient rendus là, mais qui s'étaient répandus un peu partout. Damas était la croisée des chemins, OK? Qu'on pouvait partir de Damas pour aller en Syrie, en Mésopotamie, en Perse et en Arabie. Donc, c'était important d'agir tout de suite pour empêcher l'Évangile de se répandre. Et Paul l'avait compris, ça. Il avait demandé la lettre pour aller arrêter ça à la source. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Wow! Imaginez-vous là, faire une telle rencontre. Et puis, lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus, puis encore aujourd'hui, lorsqu'on lit ces paroles-là, puis qu'on va bavasser contre un chrétien, ou on va bavasser contre quelque chose comme, c'est que, ou bien donc, il y a des gens qui vont vous persécuter. C'est pas vous qui persécutez, c'est pas vous que vous bavassez, c'est pas contre la personne que vous bavassez, c'est que lorsque vous parlez contre un chrétien ou que vous attaquez l'Église, c'est que vous attaquez Jésus-Christ lui-même. OK? Parce que l'Église est le corps de Christ. Et lorsqu'on fait mal à l'Église, c'est Jésus à qui on fait mal. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Certain que, rien qu'une couple de secondes, qui faisait la rencontre de Jésus, puis tout de suite, il demandait, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur, un autre. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse. » Donc, la droite, ici, est référence à une ville qui coupe la ville de Damas, c'est ça, qui coupe la ville en deux, qui un peu comme la rue Yonge à Toronto divise l'Est et l'Ouest, comme qu'il y a toute une ville là, qui coupe une ville en deux. Donc, la droite, c'était ça, selon les commentaires. Car il prit et a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin que retrouvât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme, » là, il parle de Paul ici, « tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va faire ça. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » J'ai entendu tantôt quand Mathieu priait avec Stéphanie. Et puis, dans la prière, Mathieu disait, « Seigneur, nos voix, nos mains, nos paroles ce matin, Seigneur, laisse-les être un instrument dans tes mains pour annoncer ta parole, pour ta gloire. » Et puis, voyez-vous ici, le Seigneur dit même, « Va vers cet homme, car cet homme est un instrument. » Écoutez bien ce qu'il dit ici. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc ici, c'est la première mention que Paul aurait pour ministère d'apporter la parole aux non-juifs. Et verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc déjà, c'est annoncé que Paul allait souffrir. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, il l'appelait tout de suite mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. » Remarquez bien ici lorsqu'on parle de ce qui est arrivé à Paul. On dit que Jésus est apparu à Paul. OK? Et lorsqu'on dit qu'il s'est manifesté à Ananias, il lui est apparu dans une vision. N'oubliez pas que lorsqu'on parle d'un apôtre, parce que Paul va avoir à défendre son apostolat durant toute sa vie, et un des critères pour être appelé apôtre, c'est qu'il faut qu'il y ait eu qu'il soit un témoin oculaire de Jésus lui-même. Donc, ce passage-là nous indique que Paul était un témoin oculaire. C'est pas une vision qu'il y a eu. C'est pas une vision qu'il y a eu. C'est que Jésus lui est réellement apparu sur le chemin de Damas. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut de la nourriture et force revint, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ça n'a pas pris de temps. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Donc, remarquez ici qu'il y a déjà eu un changement. Lorsqu'on parle ici d'un certain temps, selon Galates 1, 17 et 18, il s'agirait d'une période d'à peu près 3 ans. Il a passé la majorité de ce temps-là en Arabie avant de retourner à Damas. Continuez à nous verser. « Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent dans la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé, comment, à Damas, il avait prêché pendant un certain temps, franchement, le nom de Jésus. » Donc, Barnabas, qui était un disciple ici, va accompagner Paul dans ses voyages. Et c'est lui qui va le présenter aux apôtres qui étaient à Jérusalem. Et lorsqu'on parle des apôtres ici, les deux apôtres à lesquels Barnabas l'a présenté étaient Pierre et Jacques, et on peut retrouver ça dans Galates 1, 18 et 19. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Donc, contrairement à ce qui se passait avant sa conversion, Paul prend maintenant partie des chrétiens. Donc, on dit aussi plus tard que l'Église était en paix dans toute la Judée. Donc, Paul s'était converti, donc il était en paix, puis il y avait un petit dépit en ce qui concernait la persécution. Donc, on va voir maintenant ce que Paul dit de lui-même. Okay? On va aller dans Actes 22, 19 et 20. Là, c'est Paul qui parle. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, voyez-vous, il l'avoue lui-même, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Paul ne se contentait pas juste de le faire, il se ramenait des trophées. Il était fier de lui d'avoir persécuté les chrétiens. Actes 26, 9 à 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu de ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, c'est un mot qui est fort, là, contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Donc, Paul admet lui-même qu'il avait des excès de fureur. Galates 1, 13 et 14, « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant, encore une fois, animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Et un dernier passage, c'est 1 Timothée 1, 12 et 15. Paul dit ici, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Donc, est-ce que Dieu peut changer le cœur d'un homme de la sorte? Et lorsqu'on regarde, est-ce qu'aujourd'hui on pense à des hommes politiques, des hommes qui persécutent l'Église, qui font des choses qui sont méchantes, est-ce que Dieu pourrait changer le cœur de ces hommes-là? Donc, on ne sait jamais à qui on parle. Lui, il est trop creux dans la drogue, il est trop creux dans la boisson, il est trop creux dans toutes sortes de péchés. Il n'y a rien à faire avec lui. Ben, je pense que si Dieu il était capable de changer le cœur de Paul, il est capable de le faire avec n'importe qui. Et en se convertissant, Paul a vu sa vie changer radicalement et son cœur est devenu, si je retourne à mon étude du début, un foyer confortable pour le Seigneur Jésus. J'ai retenu seulement qu'un seul passage où on va décrire le caractère de Paul. Et c'est 1 Thessaloniciens 2, 5 à 12, verset 5. « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Mais nous n'avons eu la cupidité pour... Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Écoutez bien ça. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Mais nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Nous vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous avez remarqué aussi que, comme ce fut le cas pour Paul, les marques d'un cœur changé sont surtout visibles dans nos relations avec les autres, pas juste nos agissements. La façon qu'on traite les autres. La manière que qu'on traite les autres, c'est une façon très révélatrice des changements qui s'opèrent à notre cœur, dans notre cœur. J'avais écrit pour mon prochaine affaire, si le temps le permet, mais je le prends le temps. Pour terminer, j'aimerais que nous regardions ensemble un passage qui est, en soi, probablement le plus beau témoignage de Paul concernant ce qui s'est passé au niveau de son cœur lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas. Je vous ai mentionné que j'écoutais une série d'études de John MacArthur, et puis la conversion de Paul au chapitre 9, deux fois il va avoir à défendre sa foi devant, je pense, c'est Hérode, puis quelqu'un d'autre. Puis, lorsqu'on parle de la conversion, qu'est-ce qui s'est passé, qui est tombé à terre, qui a vu Jésus, puis qui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » C'est répété deux autres fois, okay, dans l'Acte des Apôtres. Par contre, c'est normal que le même langage, parce que c'est le même auteur qui écrit l'Acte des Apôtres. Donc, Luc, celui qui a écrit l'Acte des Apôtres, c'est certain que quand il va écrire quelque chose, il l'écrit de la même façon. Mais John MacArthur, dans une étude aux Philippiens, il dit, ce que vous allez voir dans ce passage-là, c'est réellement ce qui s'est passé dans son cœur. Paul va le décrire lui-même. Il s'agit de Philippiens 3, et versets 4 à 9. Et Paul parle ici. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs d'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Lorsque vous approchez quelqu'un qui est religieux, OK, puis qui dit, ben vois-tu, là, quand que j'ai fait là, toutes ces choses-là, ben je devrais avoir droit, OK, d'aller à, de passer le restant, de passer l'éternité, OK? Puis, par contre, quand que Dieu entend ça, et qu'il va dire, OK, c'est beau, mais ça vaut rien pour moi. Ça vaut absolument rien pour moi. Puis, Paul, il a réalisé que tout ce qu'il avait fait, tout le zèle qu'il avait, toute la religion qu'il avait pratiquée, ça valait rien. Puis, il dit ici, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ce n'est pas de la boue qu'il dit. OK? Vous pouvez imaginer, quand on dit que quelque chose n'est pas bon, ça ne vaut pas de la... OK? Ben, je pense que le langage qui est utilisé ici veut dire quelque chose qui est pire que de la boue. Et puis, quand il regarde toutes les choses qu'il avait avant d'être converti, ça ne valait rien. OK? Mais il regarde ça comme une perte. Il dit, j'aurais pu me glorifier avec ce que j'avais, mais non, je ne me glorifie pas à cause de l'excellence de Christ. Vous voyez ici que lorsque Paul dit ça ici, c'est parce qu'il dit réellement qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa conversion, qu'est-ce qui s'est passé sur Damas. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que les gens ont vu qui l'ont observé, mais lui, il décrit réellement ce qui s'est passé. Toutes les choses qu'il avait faites avant sa conversion, ça ne vaut rien. Puis, tout ce qu'il a acquis depuis qu'il connaît Jésus, il n'a pas besoin d'acquérir d'autres choses. Il a tout en Jésus-Christ. Donc, voici ce que Paul est en train de dire à propos de ce qui s'est passé dans son cœur sur le chemin de Damas. Puis vous avez vu tantôt, il a dit, aussitôt qu'il est tombé à terre, qu'il a pu parler, il a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Donc, le changement pour Paul, ça s'est fait comme ça. Vous allez dire, « J'ai peut-être pas eu un changement radical comme moi, comme que Paul a eu. » Il n'y a personne de nous autres qui est rendu là. Okay? Puis même, pourquoi que Paul, il va dire toute sa vie dans ses épaules, dans ses épîtres, qu'il a à se battre contre la chair. Okay? Puis même, il dit, à un moment donné, je pense que c'est dans Romains, il dit, « Pourquoi est-ce que je fais le mal que je fais, mais non pas le bien que je voudrais faire? » Est-ce que vous vous dites ça, vous autres aussi, des fois? Okay? Moi, le premier. Okay? Je vais dire ça. Savez-vous pourquoi ça? C'est parce qu'on n'est pas rendu à la perfection encore. On n'a pas encore été glorifié. On n'est pas encore dans la présence du Seigneur. Mais Paul, je ne l'ai pas en avant de moi, ce qui suit Philippiens 3, il dit que lui, il continue sa marche, pas qu'il l'a déjà, sa position est déjà avec Christ, mais il regarde ça comme quelqu'un qui est quelqu'un qui est dans une course, okay, qui a un but à gagner. Il garde ses yeux fixés sur Christ, puis tant qu'il va être sur la terre, il va garder ses yeux fixés sur Christ, parce qu'il sait un jour la gloire qui l'attend et la vie éternelle avec Jésus. Donc, je vais conclure avec que notre étude aujourd'hui, elle avait pour but de constater les changements que Dieu a déjà opérés dans la vie des croyants en général, mais aussi, c'est que, est-ce que, on a parlé aussi que Jésus essaie de faire de notre cœur un foyer où il va se trouver confortable. Et puis, on a constaté dans la vie du croyant qu'il se démarque avec un avant et après, et on l'a démontré ça avec qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul dans sa conversion. On peut maintenant affirmer que les changements de notre caractère sont des marques d'un changement plus profond qui s'est produit. Christ désire se sentir chez lui, dans notre cœur, bien installé comme un membre de la famille. Et on doit donc chercher à faire de notre cœur un foyer de plus en plus confortable. La bataille, Jésus l'a acquis pour nous, mais elle n'est pas finie tant qu'on va être ici sur la terre. Puis le monde ici, le monde sur la terre, le monde qui nous entoure, si on ne les évangélise pas, on sait qu'est-ce qui va être leur destinée. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça pour les personnes qu'on n'aime pas. On veut encore moins ça pour les personnes qu'on aime, qui nous côtoient tous les jours. Donc, nos agissements extérieurs sont des indices des changements qui sont opérés dans notre être intérieur. Et ils doivent démontrer que Christ se sent à l'aise dans notre cœur, qu'il se sent bien chez lui. Donc, je vais finir, c'est une manière de bénédiction, que tout votre être intérieur, c'est-à-dire la partie la plus intime et la plus secrète de votre personne, soit un foyer confortable pour Christ. Amen.